Salut, moi c'est Angie. Bienvenue sur mon podcast, ben ma balado, ben dans mon bullet journal, là. Ben en fait, bienvenue dans mon cerveau. Salut, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui là, j'ai décidé, en fait, je veux dire trois phrases en même temps. Déjà, dans un premier temps, je suis contente d'être de retour avec toi cette semaine pour un nouvel épisode. Puis là, cette semaine, j'ai réalisé que mes épisodes sur la santé mentale vous intéressent. Puis je vous parle souvent d'arrêt de travail. Fait que là, aujourd'hui, là, on va se concentrer sur un arrêt de travail. Qu'est-ce qu'on fait si on est en arrêt de travail? Comment on agit? Comment? Je vais te donner mes trucs. J'ai passé par là. Super souvent. Fait que je vais te donner mes trucs sur qu'est-ce qui m'a fait du bien en arrêt de travail, puis qu'est-ce qui m'a nui. Comme ça, ben, ça va peut-être t'aider. Fait que, puis je vais te le donner aussi dans la perspective du bujo toujours. On est toujours dans notre bullet journal. Je trouve ça important parce que lors d'un arrêt de travail, on peut perdre un peu la notion du temps. Et le bullet journal va nous aider à garder la notion du temps. Fait que, assieds-toi, prépare-toi un thé, un café, même si tu n'es pas en arrêt de travail, je te dirais, ça peut être pertinent pour toi. Ça va être pertinent parce que je vais aussi te donner des trucs sur quoi faire si tu as un ami en arrêt de travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un de proche qui n'est plus capable de travailler, qui ne fonctionne plus? Comment on peut être aidant? Fait que je passe à travers ça aujourd'hui. Installe-toi, prépare-toi, ouvre ton bugeot. On commence ça! C'est parti! Fait que déjà, qu'est-ce qui nous mène à l'arrêt de travail? Souvent, là, on va se rendre à l'arrêt de travail parce qu'on n'est plus capable de fonctionner. Ou on fonctionne encore, mais on est sur le pilote automatique. On pleure, on a des émotions vives, on a beaucoup de douleurs. Donc, à un moment donné, tu vas aller chez ton médecin. Là, je parle comme si c'était toi, là. Bon, OK, on y va comme ça. On commence avec la première étape. Comment on obtient un arrêt de travail? C'est un médecin qui nous donne ça. Donc, on va aller voir le médecin, puis le médecin va faire « OK, ça va pas, toi. » Et là, tu vas y raconter tes symptômes. Parce que souvent, on a des symptômes qui sont associés. On dort plus, ou on n'a plus le goût de vivre. On a des idées suicidaires, des fois. Des fois, sans avoir des idées suicidaires, on veut juste en finir. On veut pas nécessairement se suicider, mais on veut tout arrêter. On veut une grosse pause. Des fois, on n'est plus capable de se lever. Moi, j'ai quelqu'un de proche de moi à un moment donné qui m'a appelé un matin pour me dire « Angie, je suis plus capable de mettre mes clés dans mon auto. Je suis pas capable de partir ma voiture un matin. » Ce matin-là, cette personne-là est rentrée dans sa voiture puis ça ne marchait plus. Elle s'en allait travailler, mais c'était plus cohérent dans son cerveau. Elle était plus capable de partir sa voiture. Puis être en détresse parce que c'est Colin, je suis capable de faire ça d'habitude, je fais ça tous les matins, entrer dans ma voiture, partir de ma voiture, puis y aller. Puis là, ce matin-là, il n'était pas capable. Fait que ce matin-là, je lui ai dit, tu vas rentrer dans la maison, tu vas appeler ton travail pour leur dire que tu ne seras pas là aujourd'hui, puis tu vas aller chercher le plus grand bol de thé que tu peux, tu vas te faire la plus grosse tasse de thé du monde, puis j'arrive. Parce que cette personne-là, je l'aimais beaucoup. Elle avait besoin d'aide. Elle n'était pas capable de se rendre toute seule à l'hôpital, d'aller voir un médecin. Fait que je l'ai accompagnée. Il y a des gens comme ça. Des fois, c'est tu vas t'en rendre compte toi-même. Des fois, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais un rendez-vous annuel chez mon médecin, un check-up annuel. Puis en arrivant chez le médecin, la médecin m'a entendu parler, m'a entendu mon discours, puis elle a fait « Toi, ça va pas. » On va te mettre en arrêt de travail. Moi, je pensais même pas à l'arrêt de travail. Moi, j'étais juste dans le jus. C'est le médecin qui a dit non, 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 ça va pas, tu te mets en arrêt de travail. Tu as le droit de refuser. Moi, cette fois-là, j'avais refusé. J'avais des gros projets que je voulais mener à terme, donc j'ai refusé. Mais pour vrai, je suis retournée dans son bureau 2 mois plus tard, puis je fonctionnais plus du tout. Ça m'a pris beaucoup plus de temps à m'en remettre. Fait que tu as le droit de refuser. Mais sache que c'est toi qui vas payer pour aussi. C'est pas le médecin. C'est toi qui vas payer pour. Parce que c'est toi qui vas t'épuiser, puis c'est toi qui vas avoir plus de difficultés à revenir finalement. Voilà. Normalement, si un arrêt de travail, ça se donne à coup de 2 semaines. La plupart des médecins, ils vont à coup de 2 semaines ou 1 mois, pas sur le long terme. Il y a rarement des médecins qui vont t'arrêter 1 mois au complet du premier coup. Normalement, ils vont arrêter 1 semaine ou 2, juste voir est-ce que le break te fait du bien. Souvent aussi, il y a des médicaments qui viennent avec ça. Les médicaments, je trouve ça très touchy, OK? Je vais te parler de mon expérience. Mon expérience n'est pas la vérité absolue, mais mon expérience, c'est ce que j'ai appris. Moi, d'expérience, je les ai pris, les médicaments. Mais les premières fois, je ne les prenais pas pour vrai. Je les prenais pendant 1 mois, puis je les arrêtais. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui étaient contre la médication, donc ça m'influençait. Je me sentais mal d'être sur les médicaments. Je pense que ça a pris 3 burn-out, 3 dépressions, 3 troubles d'adaptation avec humeur dépressive, appelle-le comme tu veux. Au bout de mon 3e arrêt de travail, j'ai commencé à prendre mes médicaments, mais je les prenais en cachette de mes proches. Parce que là, je me disais, ben, j'ai essayé plusieurs choses, mais les médicaments, je ne les ai pas essayés, je vais les essayer. Il y a des proches autour de moi qui s'en sont rendus compte. Il y a des gens qui m'ont dit que j'étais faible. Moi, je te le dis, t'es pas faible si tu prends des médicaments. Tu essaies de te guérir. La faiblesse, c'est de rien faire. La faiblesse, c'est pas ça. La faiblesse, c'est autre chose. Parce que selon moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont faibles. Pour vrai, comme il n'y en a pas qui sont fous, on est malade. On se donne du temps. Fait que c'est pour ça que les médicaments, là, il n'y a que toi qui peux dire si oui ou non ça fonctionne. Il n'y a que toi qui peux dire si oui ou non tu as envie de les prendre. OK? Je trouve ça super important de le dire parce que pour certaines personnes, les médicaments, c'est la clé. Puis pour certaines personnes, les médicaments, c'est pas la clé. Ça dépend de chaque personne. Moi, ce que je peux te conseiller, de par mon expérience, comme je disais, je les ai pas pris au début. Ça a pris du temps. Puis je dirais même plus loin, souvent je les prenais pendant 6 mois, 1 an, puis à un moment donné, je changeais ma routine, je les oubliais, je les arrêtais. Moi, j'ai réalisé que j'étais probablement en dépression depuis des années, mais que justement, vu que je... Parce que... J'étais encore en train de vouloir dire 3 choses en même temps. La dépression, c'est un débalancement chimique dans le cerveau. OK? C'est de la chimie dans le cerveau. Autant quand tu te blesses, c'est un bout de peau, mettons, qui s'en va, tu saignes, ben tu le vois. Ben, la dépression et les maladies mentales, c'est des débalancements chimiques. C'est la chimie du cerveau, c'est une question d'hormones puis de neurotransmetteurs. Je suis pas docteur. Je te parlerai pas de tout ça. OK? Pour vrai, je suis pas assez bonne en chimie, en neurotransmetteurs puis en hormones pour m'avancer dans ce sujet-là. Mais ce que je peux dire, c'est que perso, ça fait un certain temps maintenant que je prends mes médicaments. Peut-être que je vais en avoir jusqu'à la fin de mes jours. Ça se peut. Je ne sais pas. Mais personnellement, je suis une personne en rétablissement. On ne guérit pas nécessairement de la maladie mentale, on se rétablit. On apprend à vivre avec, puis on s'en fait notre allié. Donc, maintenant, je vis avec mes symptômes. Maintenant, je fonctionne très bien avec mes symptômes. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de médicaments pour réguler mon humeur. C'est plus facile pour moi d'avoir de l'énergie si j'ai des médicaments qui viennent réguler tout ça. C'est chimique dans mon cerveau. Donc, ça m'amène aussi à la question. Si ton médecin te prescrit des médicaments, il va te poser la question dans un rendez-vous subséquent, bientôt, dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il va te poser la question. Puis les médicaments, est-ce qu'ils font effet? Est-ce que ça marche, les médicaments? Comment ça se passe? Ça sera à toi de répondre. Mais moi, ce que je veux te dire là-dessus, c'est que j'ai réalisé la dernière fois que j'étais en arrêt de travail puis que j'ai vécu une dépression, c'était pas ma première fois, mais c'était la première fois que je réalisais que je comprenais pas cette question-là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce que les médicaments fonctionnent? Je le sais-tu, moi, je les avale, les médicaments, puis j'espère qu'ils fonctionnent. J'en ai aucune idée. C'est quoi les attentes? Je suis censée d'avoir les cheveux mauves si je les prends? Parce qu'ils sont pas mauves, mes cheveux. Je veux dire, c'est difficile de savoir comment on se sent. On se sent-tu mieux? On se sent-tu... Des fois, c'est juste le placebo de prendre un médicament. On se dit, OK, oui, je vois mieux. Je suis plus forte. Fait que je te prépare mentalement. Si tu vas en arrêt de travail, ton médecin va te demander comment ça se passe, les médicaments. C'est pas une question piège. C'est juste que c'est une question qui est difficile à répondre. C'est pour ça que là, je t'introduis le bullet journal, justement. L'importance du bullet journal quand tu es en arrêt de travail, c'est de garder aussi le fil de ce que tu fais, le fil des jours. Parce que c'est facile quand tu es en arrêt de travail de rester couché toute la journée en pyjama sans prendre ta douche. Ça va te faire du bien. Pour vrai, ça fait du bien. Mais après une semaine de ce rythme-là, ça fait plus de bien. Parce que là, tu t'enracines dans un isolement social. Tu t'enracines dans des mauvaises habitudes. Puis au-delà de ça, si tu bouges plus, ton poids, il va y avoir un effet. Puis ça va avoir un effet ensuite sur ton mental. Parce que ça a un effet sur notre mental quand on engraisse. C'est pas le fun, on n'aime pas ça. Fait que... Puis il y a un médecin à un moment donné aussi qui m'a dit quelque chose de super important. Je vais te le dire comme il me l'a dit, mais ce médecin-là n'avait pas la vérité absolue, OK? La médecin m'avait dit, tu as le choix. Je te prescris des antidépresseurs ou tu fais 30 minutes d'exercice par jour. C'est un ou l'autre. Je suis pas certaine de la validité scientifique de ça, OK? On s'entend-tu que je pense pas que ce soit aussi simple que ça dans la vie? Je pense pas que quand tu es en dépression, ce soit tu fais 30 minutes d'exercice, soit tu prends des pilules. Mais je pense que les deux jumelés ensemble fonctionnent. La fois où je me suis le remis le plus rapidement de ma dépression, c'est la fois où j'habitais à côté d'un gym, puis que je l'ai pris au mot. J'ai fait, ouais, hein? Tu dis que c'est la pilule ou 30 minutes d'exercice par jour? Moi, le faire le 30 minutes d'exercice par jour pour te montrer que ma condition, elle changera pas. Bon, elle avait raison. Ma condition a changé. J'avais rarement été aussi bien dans ma peau, dans ma tête surtout, là, je te dirais, qu'en faisant de l'exercice 30 minutes par jour. Pourquoi? Parce que j'étais motivée. Parce que même si je commençais puis ça ne me tentait pas, quand je finissais mon 30 minutes, ah, j'étais tellement fière de moi. Parce que moi, te le dire dans la vie, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'exercice. Moi, transpirer, je ne comprends pas c'est quoi le but. J'aime pas ça transpirer. J'aime pas ça me donner à fond dans un exercice. J'aime pas ça courir. J'aime pas ça transpirer. J'aime pas ça haleter. Tu sais, quand t'es... J'aime pas ça. J'aime pas ça, le sport. Fait que c'était pas évident pour moi d'aller au gym, mais je l'ai fait. Puis vraiment, ça avait une incidence. Fait que je repars au début. Tu es en arrêt de travail, tu viens d'avoir ton papier du médecin, tu viens d'informer ton employeur. Là, tu vis probablement de la honte. C'est correct. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es qui tu es, puis on est tous des faibles. On a tous des faiblesses. On n'est pas des superwomen. Puis même Superman, il doit rêver de voler plus haut. OK? Fait que même les super-héros ne sont pas toujours satisfaits. Il n'y a personne d'entièrement satisfait de soi. C'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Fait que si t'en arrêtes de travail, tu prends du temps pour toi. Je te conseille, si t'as jamais eu d'arrêt de travail avant puis que tu connais pas le bullet journal, d'aller écouter mes épisodes précédents pour savoir c'est quoi un bullet journal, comment tu commences ça, c'est quoi tu mets là-dedans. Là, je prends pour acquis que tu connais le bullet journal, tu es en arrêt de travail. Là, ce qui est important, c'est d'écrire ce que tu fais dans tes journées. OK? Le pourquoi c'est important d'écrire ce que tu fais dans ta journée, c'est pour montrer à toi-même que tu es encore capable de faire des choses, puis que tu as des journées faciles, puis tu as des journées difficiles, c'est correct. Il y a des journées où ça va être facile, tu vas être capable d'enclencher ton ménage, ta vaisselle, tu vas sortir faire des commissions, tu n'auras pas l'impression d'être malade cette journée-là. Ça se peut. Ça se peut très bien. Puis le lendemain, ben, tu ne seras pas capable de te lever de ton lit. Ça se peut. Fait que c'est tout ça que moi, je te conseille d'écrire dans ton bullet journal, dans tes journées. Tu
Écris ce que tu fais. Parce qu'il y a des journées où tu auras l'impression que tu n'as rien fait, puis finalement, tu vas regarder ton bullet journal, puis tu vas te dire, mais j'ai quand même réussi à prendre ma douche, passer le balai, puis faire la vaisselle. Ça, là, pour quelqu'un qui est en dépression majeure, c'est énorme. Fait que c'est de célébrer nos petites victoires, puis d'accepter quand on est moins en forme. Mais ça va t'aider aussi, ton bullet journal, quand tu vas arriver chez le médecin. Quand tu vas arriver chez le médecin, puis le médecin va te dire, puis les médicaments font-tu effet? Bien, tu vas être capable d'avoir regardé dans ton bullet journal, voir qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps depuis que tu prends les médicaments. Est-ce que tu es plus productive? Est-ce que tu es moins productive? Est-ce que tu dors davantage? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que, tu sais, tout ça, tu vas être capable de l'observer. Fait que, à tous les jours, moi, ce que je te conseille, t'écris ce que tu fais, puis tu te donnes une note. Comment tu files aujourd'hui? T'as le droit de filer à 1. T'as le droit. Puis t'as le droit de filer à 10. Puis tu regardes ton humeur comme ça. T'écris le nombre d'heures de sommeil aussi que t'as eu. C'est important. Est-ce que t'as dormi 6 heures? Tu t'es levé, t'as pris un café, t'as été te recoucher. Tu t'es réveillé, t'as dîné, t'as été te recoucher. T'sais, c'est important. C'est quoi ton rythme? Comment tu fonctionnes, toi? Parce que seul médecin ne peut pas t'aider là-dessus. Il ne peut pas t'aider sur ton beat de vie. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Fait que pour ça, quand tu vas aller voir ton médecin avec ton bullet journal, ben, de un, ton médecin, je pense qu'il va être impressionné que tu aies un bullet journal. Moi, mon médecin, quand je suis arrivée avec mon bullet journal, puis j'ai fait, regarde, là, je ne passe pas des bonnes journées, j'ai passé une bonne journée, telle journée, là, 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 là. J'étais capable de faire un topo de comment j'allais. J'étais à l'écoute de moi. C'est ça le plus important. Quand tu es en arrêt de travail, là, la seule chose importante, ça va être toi. Si tu as des enfants, si tu as une famille, tu ne pourras pas arrêter de vivre. Mais toi, il faut que tu te mettes au centre de ta vie, même si tu as des enfants. Puis là, je vais reprendre l'exemple, justement, le plus criant. En santé mentale, on le dit souvent. C'est comme en avion. Tu sais, en avion, quand ils expliquent les consignes de sécurité, à un moment donné, ils disent, si on a une zone de turbulence, puis que les masques tombent devant vous, puis que vous êtes avec votre enfant, n'allez pas mettre le masque sur votre enfant en premier. Mettez votre masque, puis ensuite celui de votre enfant. Parce que si vous mettez le masque de votre enfant, mais que vous, vous n'avez pas le temps de mettre le vôtre, ben votre enfant va être orphelin. Tandis que si vous avez le temps de mettre votre masque, vous mettez votre masque, puis ensuite vous prenez celui de votre enfant pour le mettre, vous êtes plus fort. Vous avez l'assurance d'être correct. Donc, s'il arrive quelque chose entre le moment où vous mettez votre masque et le moment où vous voulez mettre le masque de l'autre, bien, votre enfant, au moins, il est encore récupérable. Tandis que l'enfant ne sera pas capable de vous récupérer si vous n'avez pas votre masque. Puis en santé mentale, c'est la même chose. Pour aider quelqu'un, il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa tête. Je te dis pas qu'il faut être bien dans ta tête puis bien dans ta peau du jour au lendemain. Mais c'est important si tu es une maman, si tu es un papa, si tu as une famille, faut que tu sois bien dans ta tête. C'est l'exemple que tu donnes à tes enfants. Puis si tu prends soin de toi quand tu es malade, ben c'est l'exemple que tu donnes à tes enfants aussi. Tu es un modèle. Tu es un modèle pour tous les enfants qui sont autour de toi. Fait que d'aller chercher de l'aide. C'est pas montrer sa faiblesse, c'est de montrer sa force. De prendre soin de soi, c'est la base dans la vie. Fait que tu montres tellement des belles valeurs à tes enfants si tu es en train de faire ça. Personnellement, moi, j'ai vu ma mère souffrir quand j'étais petite. Je l'ai vue souffrir au point d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des groupes d'entraide, d'aller chercher de l'aide psychologique, d'aller chercher des organismes de soutien aidé. Mais ça fait qu'aujourd'hui, un, je ne perçois pas ma mère comme quelqu'un de faible. Je l'aperçois comme quelqu'un de débrouillard. Je l'aperçois comme une personne forte. Je l'aperçois comme une battante. Parce que ma mère ne se laissait pas abattre. Elle allait se battre. Puis elle allait cogner puis défoncer des portes pour se faire aider. Donc moi, en tant qu'adulte, aujourd'hui, ben, j'ai pas honte d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est le modèle que j'ai eu. Donc, vraiment, tu rends service à tes enfants en leur montrant tes faiblesses. C'est pas vrai qu'un adulte, c'est tout le temps fort. Mais un adulte, ça se gère. Puis c'est ça que tu fais. Tu te gères. Dans ton bureau. Enfin, j'espère. Donc, en arrêt de travail, ce qui est important, c'est de se regarder aller. Puis de pas se mettre de pression. Là, si ton médecin t'a signé 2 semaines, là, va pas te mettre la pression pour retourner au travail dans 2 semaines. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce qui est important actuellement, là, c'est que tu t'observes, que tu te donnes du temps, puis que tu reprennes du plaisir. Parce que quand tu es en arrêt de travail, souvent, c'est parce que tu n'en as plus de plaisir. Tu n'en trouves plus. Ce qui te plaisait avant ne te plaît plus. Ou tu n'en retires plus autant de bénéfices. Donc là, ce qui est important, dans ton bullet journal, tu vas prendre des pages vides. Tu vas prendre une première page qui va s'appeler « brain dump » ou « vidage de cerveau » ou « poubelle à cerveau ». Et là, là, sur cette page-là, tu vas écrire tout ce qui t'inquiète. Tout, tout, tout. Si tu as peur de ton médecin, tu l'écris là. Si tu as peur de ton voisin qui va te juger, tu l'écris là. Si tu as peur de ton chum qui va te juger parce que tu prends des médicaments, tu l'écris là. Tu écris tout là. Tout, tout, tout. Tu vides ta tête là-dedans, s'il te plaît. Ce à quoi ça va servir? Ça va te servir à prendre du recul déjà. Là, là, ça ne sera plus dans ta tête, ça va être sur papier. Ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Ensuite, ça va te permettre de prioriser. Parce que souvent, quand on est en arrêt de travail, on veut faire 1000 choses en même temps. Là, sur la page d'à côté, tu peux faire... Tu peux découper ta page en 4. OK? En découpant ta page en 4, tu vas te demander qu'est-ce qui est urgent que je fasse? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui serait le fun de faire? Puis qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? À partir de là, tu vas prendre ta grosse liste de tout ce que tu as dans ta tête, puis tu vas la ranger dans urgent. Nécessaire, pas urgent, je peux laisser tomber. Et là, ça va te donner un planning aussi. T'es pas obligé de tout faire en même temps. Personnellement, toujours, quand j'étais en arrêt de travail, moi, j'essayais de tout faire en même temps. Écoute, t'as pas la force, t'as pas l'énergie, puis là, tu te bottes le cul à essayer d'en faire plus. Ça marche pas. En tout cas, moi, ça ne marchait pas. Moi, je faisais juste me décourager. Je perdais confiance en moi. Je perdais de l'estime de moi parce que je me disais, mais je suis donc pas bonne. Non. Faut être patient envers soi, là. Prends le temps. Pardonne-toi. Tu es une bonne personne. Puis tu vas te rétablir en temps et lieu. Ça va venir. Fait qu'en arrêt de travail, tu notes tes trucs. Tu te regardes aller. Tu te mets pas de pression. Puis mon meilleur conseil, ce serait sors prendre une marche de 20 minutes minimum par jour. Parce que, là je t'explique, si t'as honte, si t'as pas d'énergie, si tu restes dans la maison, on le sait, il y a eu la pandémie, on l'a vu, les effets. Plus on reste dans la maison, moins on a envie de sortir, plus on devient sauvage. Plus on devient sauvage, moins on a de contact avec l'extérieur. Moins on a de contact avec l'extérieur, plus on rumine. C'est important de sortir. Pour ta santé mentale, pour faire de l'exercice, pour profiter du soleil sur ta peau, pour profiter du vent. Écoute, prendre une marche à 2 heures de l'après-midi, là, c'est magique. Il n'y a pas grand monde dans les rues. T'as du beau gros soleil sur ta peau. T'as la rue à toi toute seule. Tu peux marcher en plein milieu de la rue quasiment bien souvent. Bon, peut-être pas si t'habites dans un grand centre, mais si t'habites en banlieue, souvent dans une petite rue, tu peux te promener en plein milieu de la rue. Ça fait du bien. Ça aère les idées. Fait que même si ça te tente pas, OK, une fois par jour, s'il te plaît, sors prendre une marche. Au pire, t'offres pas 20 minutes. fais le tour de ton pâté de maison. Puis demain, ça sera deux pâtés de maison. Puis après-demain, si t'es pas capable, tu reviendras à un seul pâté de maison. Mais donne-toi la chance de sortir. Sans but précis, juste pour sortir. Puis en marchant, là, regarde autour de toi, profite, respire. On est chanceux, on est dans un pays où il y a la paix. Au Canada, là. Surtout en ce moment, c'est super important, la paix. On est chanceux d'être dans un pays où on a les saisons comme ça qui se promènent. Oui, il y a de la neige, puis oui, c'est glissant. Marche plus doucement. Mets des crampons. Habille-toi chaudement. Tu vas voir, en marchant, on se réchauffe. Ça fait du bien. Tu vas revenir chez toi avec les belles joues rouges. Puis un chocolat chaud en revenant, là, ça n'a pas de prix. Ou un bain. Si t'es en arrêt de travail, sors, prends une marche, reviens, va prendre un bain. T'as le droit, t'as le temps. Le but, là, c'est de reprendre du plaisir. Fait que là, dans ton bureau, t'as surveillé ton humeur, tu surveilles ce que tu fais, t'as fait ton brain dump, ton vidage de cerveau, t'as priorisé tout ça. Là, j'aimerais ça que tu fasses ta liste de choses qui te font du bien. Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Est-ce que lire, ça te fait du bien? Est-ce qu'il y en a qui sait faire du ménage? Bon, ça, entre nous deux, là, je le comprends pas. Moi, ça me fait pas de bien de faire du ménage. J'haïs ça, faire du ménage. Mais il y en a que ça fait du bien. Je ne juge pas. Je comprends. C'est vrai que ça fait du bien faire de l'ordre dans sa tête. Puis souvent, faire du ménage, ça fait faire de l'ordre dans sa tête. Ça peut être aussi, je sais pas, écrire. Ça peut être faire des casse-têtes. Ça peut être faire de l'art. Ça peut être jouer à des jeux vidéo. Mais fais-toi la liste des choses qui te font du bien. Puis t'as pas le choix. Je te donne une postologie, là. T'as pas le choix de te faire du bien au moins minimum une fois par jour. Minimum. Même si t'as pas de plaisir actuellement. Même si d'habitude t'as un grand plaisir à jouer à des jeux vidéo puis que là t'en as pas, joue quand même. Essaye-toi. Puis note ton plaisir. J'ai-tu eu du plaisir aujourd'hui? J'ai-tu ri? Appelle ta meilleure amie qui te fait rire, là. Elle te fait-tu rire aujourd'hui? Non? Bon. OK. C'est une journée de même. C'est pas grave. Note-le. Aujourd'hui, je n'ai pas ri. Aujourd'hui, j'ai ri. Aujourd'hui, j'ai eu du plaisir. T'sais, ça, là, c'est super important. Parce qu'il faut que tu reprennes du plaisir. Il faut que tu reprennes le goût à la vie. Puis ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait par petites étapes. Ça se fait au jour le jour. Ça se fait au fur et à mesure des hormones puis des neurotransmetteurs qui se rebalancent dans ton cerveau. Mon message le plus important aujourd'hui, c'est sois patient. T'as pas à être guéri demain matin. Le temps que ton médecin te donne, c'est pas le temps qu'il va falloir que tu te rétablisses. C'est le temps entre tes rendez-vous. Lui, il va réévaluer à chaque fois. Puis, aie pas peur de lui parler, là. De lui dire les vraies choses. Moi, au début, là, je pensais qu'il fallait que je sois sur pied après un mois. Fait que je faisais tout en mon pouvoir pour reprendre mon énergie, puis je retournais au travail au bout d'un mois. Ben ouais, un an plus tard, je retombais en arrêt de travail parce que j'étais encore à bout. Fait que c'est important de te donner le temps pour toi. Ton travail va te remplacer. Pour vrai, là, mais il n'y a pas d'humain irremplaçable au travail. C'est plate, là, mais c'est ça. Tu n'es pas ton travail non plus. T'es un humain. Tu te définis par tes qualités, par tes bons coups, par ce que tu fais. Tu ne te définis pas par ton métier. Moi, Angie, je suis un humain avant tout. Je suis une personne qui aime partager. Je suis une personne qui aime rire. Je suis une personne... Oui, je suis une personne qui est aussi photographe. Oui, je suis une personne qui est aussi père aidante, famille. Mais avant tout, je suis un humain. Et ma valeur n'est pas contrôlée par ce que je fais. Je n'ai pas moins de valeur que toi parce que j'ai fait des burn-out en quantité. Je n'ai pas moins de valeur que mon voisin parce que j'ai un podcast ou parce que j'ai... Tu sais, tu as autant de valeur qu'un de moi, que t'as autant de valeur que Shakira, t'as autant de valeur que Céline Dion, OK? Pour vrai, là. Toi, dans ton monde, il y a des gens qui comptent sur toi. T'es important. Même si tu le vois pas actuellement parce que ton cerveau, il veut pas, là, je te le dis, t'es important. Pour moi, t'es important. Tu me fais un... Tu me fais de la publicité? Non. Non, mais pour moi, t'es important dans la mesure où je pense qu'on est tous importants. On l'est tous parce qu'on on fait tous des changements dans la vie de tout le monde. On a tous un impact. Quand tu prendras ta marche, fais un sourire à une personne âgée. Tu vas faire sa journée peut-être. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Je trouve ça important. Fait que là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que la base est là. Là, j'ai posé la fondation pour les arrêts de travail. Là, ce que je trouve important, je te l'ai dit. Là, maintenant, si tu as un ami, si tu as un proche qui souffre de santé mentale, qu'est-ce que tu fais? Comment on agit? Je vais te dire comment ne pas agir, OK? Tu ne lui pousses pas dans le dos. C'est pas de sa faute, sa condition. C'est pas parce qu'il est paresseux. C'est pas parce qu'il manque de volonté. C'est pas... Non. C'est parce qu'il souffre. Fait que c'est important de faire preuve de compréhension, d'écoute. Comment tu te sens aujourd'hui? Je te reprends l'exemple de la personne proche de moi là, qui a eu une dépression, qui n'était pas capable de partir de sa voiture, qui n'était pas capable de démarrer sa voiture. Cette personne-là, après l'avoir amenée chez le docteur en arrêt de travail, j'ai pris du temps avec cette personne-là. Et ensuite, je me sentais impuissante. Parce que j'ai pas d'impact sur sa vie. Je peux pas rentrer dans sa tête puis enlever ses problèmes. Je peux pas lui donner de motivation. Je peux pas lui donner de mon énergie. Je peux partager du soleil avec elle, mais je peux pas aller plus loin. Par contre, là où je peux faire une différence, c'est de lui montrer que je l'aime. Puis c'est ça, ta mission, si t'as quelqu'un qui souffre de santé mentale autour de toi, c'est juste lui montrer que tu l'aimes. Comment on fait ça? Facile. Bien, bien facile. On y pense même pas, tellement c'est trop facile. Tu fais juste appeler la personne puis tu lui dis « je t'aime ». Coucou. Je voulais savoir comment t'allais aujourd'hui. Hey, j'ai pensé à toi, j'ai vu telle chose, j'ai entendu telle musique. C'est tout. T'es même pas obligé de demander comment ça va, OK? Pour vrai, parce que peut-être que la personne ne sera pas capable de te répondre. Fait que moi, ce que je faisais avec la personne proche de moi quand elle était en dépression, c'est qu'à tous les jours, je lui donnais un signe de vie. OK? Je sortais du bureau vers 5 heures. 5h05, à tous les soirs, elle avait mon appel. À 5h05, tous les soirs, je l'appelais. « Coucou, je voulais juste te dire que je t'aime aujourd'hui. Comment ça se passe? » T'as-tu fait des belles choses aujourd'hui? C'est une journée bonne ou une journée mauvaise? C'est une journée mauvaise? OK, ben je t'aime pareil. C'est une journée bonne? Hey, cool, je suis fière de toi. C'est tout. T'as pas à prendre les problèmes de l'autre. T'as pas à essayer de résoudre ses problèmes. Non, ça sert à rien, ça. Mais ce qui sert beaucoup, c'est de dire je t'aime, je pense à toi. Si t'as besoin, je suis là. C'est tout. C'est tout. Parce que pour vrai, la personne, ce qu'elle a de besoin, c'est de se recentrer sur elle, c'est du temps, puis c'est surtout de l'amour, puis de la compréhension. Pas de « as-tu pensé à faire ça? » Ça, là, ça aide pas. Parce que souvent, la personne, elle va se sentir soit incompétente en se disant « ben non, j'ai pas pensé à ça, je tombe niaiseuse. » C'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que l'autre, elle se sente épaisse. Fait que, c'est même pas dans ton discours, mais ça fait partie de. Ça fait partie de la maladie de se dire « Comment ça, je n'ai pas pensé à ça, je tombe inconne. » Voyons, je tombe une épaisse. Fait que, as-tu pensé à « Non, ça aide pas. » C'est rare que ça aide. C'est le fun des solutions, mais souvent la personne n'a pas besoin de solutions. Elle les a en elle. Elle a juste pas l'énergie pour les sortir. Tout ce qu'elle a de besoin, c'est quelqu'un qui dit « Je t'aime. Je vais être là. » Ça se peut aussi que cette personne-là dise « Hey, je sais pas quoi faire. J'aimerais ça voir du monde, mais j'ai rien à dire. » Parce que ça arrive, ça. Quand tu es en arrêt de travail puis que tu fais plus rien, tu n'as plus rien à dire non plus. Pas évident ça pour aller voir tes amis. Ça te tente plus d'aller voir tes amis, t'as rien à dire. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Dormi. J'ai écouté les feux de l'amour. Non, tu veux pas faire ça. Fait que si justement ton ami, ton proche, il vit une période difficile, ben des fois c'est juste aller chez cette personne-là, puis te faire, hey, regarde, toi, quand tu vas écouter un film, être ensemble dans le silence. La personne, elle va se sentir soutenue parce que t'es là. S'il a besoin de parler, elle va être capable de parler. Puis ça se peut qu'elle n'ait pas besoin de parler. Ça se peut. Puis c'est bien correct. Le but, c'est juste d'être là. Fait que voilà, c'est mon meilleur truc. Si t'as quelqu'un qui souffre, fais juste être là. Fais juste l'aimer. Ça va aller. Tout va aller. Parce que tout se replace dans la vie. Il faut juste du temps. Puis quand on parle de maladie mentale, le meilleur remède, c'est le temps. Pas le temps à attendre, à rien faire. Plutôt le temps à attendre d'aller mieux, à faire des petites actions. C'est comme une maison. Une maison, ça se bâtit pas du jour au lendemain. Ça se bâtit petit peu par petit peu. Faut creuser en premier. Faut couler la fondation. Monter la fondation. Monter les murs. Faire d'autres murs à l'intérieur. Mettre ce G-Pro. C'est plusieurs étapes. Mais c'est pareil quand t'es malade ou quand tu souffres ou quand quelqu'un autour de toi souffre. Une petite brique à la fois. Une petite brique d'amour à la fois. Un je t'aime à la fois. Un t'es important pour moi à la fois. C'est tout. Il n'y en a pas de baguette magique. L'amour, je dirais que c'est la meilleure des baguettes magiques. L'amour, elle résout tout. L'amour, ça résout plein de choses. Si Poutine disait « je t'aime » en Ukraine, ça irait tellement mieux. Ouais, je suis dans un monde dystopiste. Fait que c'est ça pour cette semaine. Écoute, ça fait déjà longtemps que je parle. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. En tout cas, de mes notes, j'ai fait le tour. Si tu as des questions, t'hésite pas. Que ce soit par Instagram, par courriel, en commentaire sur Anchor, ou peu importe. Ça va me faire plaisir. Fait que si t'as des commentaires, tu m'écris. Si t'as des questions, tu m'écris. Si jamais t'as une question, mais que tu veux pas que je la pose devant tout le monde, tu peux rester anonyme. Oh ouais! Tu peux soit me demander de rester anonyme, j'en parlerai pas à l'émission, à l'émission ou au podcast, sauf si je vois qu'elle est vraiment importante. Mais je te nommerai jamais, OK? C'est important pour moi que vous restiez anonyme si vous me posez des questions. C'est à moins que vous vouliez sortir puis que vous me disiez « oui, oui, ça me dérange pas, j'assume ». Mais sinon, vous allez toujours être anonyme avec moi. Puis, je trouve ça super important que, justement, vous ayez une place pour poser des questions. Des fois, on le sait pas. C'est pas évident. Fait que ma boîte de courriel est ouverte, mon Instagram est ouvert. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Je connais plein de ressources, puis je vais pouvoir vous référer au pire. J'en ai pas de baguette magique. Je résous rien. Moi, j'aime me qualifier d'une ouvreuse de portes. J'ouvre des portes, puis je dis, hey, regarde, ça existe. Aujourd'hui, je t'ai ouvert la porte du bijou pour la santé mentale en disant, regarde, ça existe. Je t'ai ouvert la porte au niveau des médicaments en disant, ben, t'as le droit de pas les prendre ou t'as le droit de les prendre, v'là la porte. Puis, un gros bémol que j'ai oublié de faire aussi. Tantôt, j'ai dit les médicaments, c'est que mon médecin m'a dit, c'est soit tu prends les médicaments, soit c'est 30 minutes par jour d'exercice. Je veux juste spécifier que c'est vraiment spécifique au trouble d'adaptation avec humeur dépressif, ça. C'est très propre à la dépression. Je ne crois pas que pour un cas, par exemple, de personne qui serait bipolaire ou une personne qui serait schizophrène ou une personne, tu sais, vraiment, chaque trouble de santé mentale a ses particularités. Et ça a été prouvé justement que pour la dépression, l'exercice est excellent. Mais c'est pas la même chose pour les schizophrènes, les bipolaires ou d'autres maladies comme celle-là. Donc vraiment, puis deuxième chose aussi, je suis pas médecin là. Je te dis ce que moi on m'a dit, ce que mon médecin m'a dit, mais je suis pas médecin. Puis les avancées en médecine, il y en a à tous les jours. Fait que c'est important d'écouter ton médecin. Si ton médecin dit le contraire de ce que je te dis, je pense que ton médecin a raison. OK? Je veux juste faire vraiment attention, là. Il y a des médecins, des fois, qui sont des patates. Mais pour vrai, moi, j'ai réalisé que souvent, je prenais pour acquis que mon médecin il était d'un patate, puis c'était moi qui étais d'un patate. Fait que, faut en prendre, faut en laisser. Écoute ton instinct, mais ton médecin, il a des bons arguments, sûrement. OK? Fait qu'on se garde ça comme ça. Si t'es un proche de personne qui vit avec des problèmes de santé mentale puis que tu trouves ça lourd, il y a des organismes qui existent pour t'aider. Si tu souffres de santé mentale actuellement, il y a des organismes aussi pour t'aider. N'hésitez pas à faire appel aux organismes. C'est rempli de gens merveilleux qui veulent vraiment aider puis qui font vraiment une différence. N'hésite pas. T'es la personne la plus importante dans ta vie. Il faut que tu prennes soin de toi, s'il te plaît. Parce que je veux que tu m'écoutes encore la semaine prochaine. Parce que je veux que tu continues à mettre du soleil dans ta vie. Parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui profitent du soleil que tu rayonnes. Fait que voilà. Prends soin de toi. On se parle la semaine prochaine. J'espère que le podcast n'a pas été trop long puis que tu l'as apprécié quand même. Puis écoute, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler la semaine prochaine. Ça, c'est mon grand mystère cette semaine. Donc, ça va être une surprise. Pour tout le monde. Fait que voilà. Je te souhaite une super belle semaine. Prends soin de toi. Aime-toi, s'il te plaît. Trouve-toi des qualités parce que t'en es plein de qualités. Mais surtout, c'est ça. Prends soin de toi. À bientôt. Bye.